Après 48 heures passées loin des combats, Sacha doit déjà repartir. Il va rejoindre la position qu'il tient sur le front. Un abri, baptisé la Flèche. Seule protection en cas d'attaque, Sacha et son fusil à l'arrière du pick-up. Pour rejoindre la position, il faut rouler 25 minutes à travers champs, à découvert. Ces derniers mois, la ligne de front est devenue une zone grise d'une vingtaine de kilomètres de large. Un territoire surnommé la zone de mort, infesté de drones. Ils sont les nouveaux maîtres du champ de bataille. Cette fois-ci, c'est un drone ukrainien qui n'avait pas signalé sa présence.
Dans le cadre du 33e Festival international de grands reportages d'actualités documentaires de société, ou autrement dit FIGRA, qui s'est déroulé à Douai du 30 mars au 4 avril 2026, j'ai eu l'occasion d'assister à la projection du documentaire de 36 minutes Wargame, réalisé par le grand reporter Gwenlawen Le Guil. On y suit pendant 6 jours le quotidien de Sacha, un jeune homme et jeune soldat ukrainien pilote de drone et ancien gamer professionnel, ainsi que son coéquipier Sania. Gwenlawen Le Guil, à travers ces deux jeunes hommes, nous montre la réalité du front ukrainien et notamment de ces jeunes soldats pilotes de drone qui mènent la guerre à travers un casque de réalité virtuelle, bien que les dangers, eux, soient très réels. Je vous laisse écouter l'entretien que j'ai pu réaliser avec Gwenlawen Le Guil. Vous présentez un documentaire qui suit l'histoire de Sacha, un Ukrainien qui contrôle des drones lors de la guerre. Pourquoi avoir décidé de s'attarder sur cette thématique ?
Eh bien parce qu'en fait, il y a un an, au printemps 2025, la guerre en Ukraine a changé de visage. C'est devenu une guerre qui se fait depuis d'ailleurs, essentiellement depuis les airs, avec des drones. Et ça a complètement changé l'aspect ou la face ou la figure du front. Il n'y a plus vraiment de ligne. Il y a une zone qu'on appelle la kill zone, qui est donc la zone de mort, qui fait à peu près 20 km de large, dans laquelle il n'y a quasiment que des soldats comme Sacha et Sania qui tiennent des positions souterraines et qui projettent des drones explosifs sur les ennemis. Donc c'était pour documenter ce moment qui pour moi ça fait depuis 2014 que je couvre l'Ukraine et le conflit dans l'est de l'Ukraine. Et pour moi c'était important de raconter ce moment, d'être témoin de ce moment de bascule, de changement de nature de la guerre.
Justement, vous racontiez que le commandement en charge n'était pas au courant de votre venue et que vous étiez censé rester 24 heures à suivre Sacha et son équipe. Comment en êtes-vous venu justement à les suivre ?
Ça c'est parce que comme j'y vais régulièrement en Ukraine depuis 2014 et que là, depuis 4 ans évidemment j'y vais encore plus régulièrement, j'ai noué pas mal de relations, de contacts, j'ai des copains, quelques amis, des gens qui me font confiance et qui sont prêts à m'aider pour obtenir notamment ce genre d'accès, sans forcément mettre toutes les autorités au courant puisque sinon ce genre d'accès on ne l'a pas, évidemment puisqu'on voit comment ils travaillent, comment ils se battent, c'est-à-dire avec très peu de moyens, en claquettes chaussettes. Et ce n'est pas les conditions forcément que l'armée ukrainienne, comme n'importe quelle armée dans le monde, aimerait montrer de ses hommes.
Vous mentionnez justement qu'ils payaient notamment l'antenne Starlink. Comment ça se fait que ce soit sur leur propre solde ?
Parce qu'il n'y a pas d'argent pour avoir un équipement correct. Alors c'est très vrai en Ukraine, mais ce n'est pas seulement le cas en Ukraine. Hein. C'est le cas dans de nombreux pays. Hein. Y compris des pays proches de nous, où pour, entre guillemets, pimper leur équipement, améliorer leurs conditions de travail, leurs conditions de combat, les soldats sont obligés de s'équiper en partie eux-mêmes. C'est le cas en France, on le sait, c'est le cas quasiment dans tous les pays. En Ukraine, c'est particulièrement le cas, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'argent et que l'effort de guerre, il est immense. Ils doivent payer eux-mêmes une grande partie de leur matériel. S'ils veulent un bon fusil, ils achètent leur fusil. Sinon, ils ont un K-47 tout pourri de l'armée ukrainienne. Donc, ils préfèrent l'acheter eux-mêmes pour avoir un fusil de bonne qualité. S'ils veulent pouvoir travailler, donc communiquer, c'est vital quand on est droniste sur le front, il faut une antenne Starlink pour avoir ne serait-ce que la communication avec l'appareil, avec le drone, quand on le projette. Et ça, c'est pas fourni par l'armée, c'est eux qui doivent le payer aussi. Donc, il y a beaucoup de matériel comme ça qui sont obligés de payer par leur propre denier parce que l'armée manque de moyens.
Pourquoi, lors du documentaire qui dure 30 minutes, vous montrez souvent Sacha en communication avec sa femme et son fils au téléphone ?
Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans la guerre, en tout cas moi ce qui m'intéresse dans la guerre, c'est pas la technologie, les armes, l'aspect guerrier, l'aspect très viriliste en fait de la représentation de qu'on se fait, en tout cas nous, de la guerre, qui est faite par les films de fiction, etc. Moi ce qui m'intéresse, c'est qui sont ces bonhommes qui sont prêts à mourir pour la terre, pour un pays, pour des gens qu'ils connaissent pas, comment on choisit de faire ça, pourquoi on le fait et qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Donc en fait c'est tout ce qui est non guerrier, c'est tout ce qui est non militaire qui m'intéresse. C'est pour ça que je suis dans ce trou pendant 4 jours avec eux. C'est pas pour faire un film sur la technologie guerrière, hein, ni avoir des scènes de combat, parce que évidemment il y en a, mais c'est pas moi mon premier but, il est pas là. J'ai vraiment envie, c'est de ma curiosité qui parle, j'ai envie de savoir ce qui se passe dans sa tête. Et dans sa tête, c'est juste un gamin de 26 ans qui est marié, qui a un fils de 3 ans et demi qu'il n'a vu que 3 fois dans sa vie, un jour ou deux, hein, donc il connaît pas son enfant. Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Qu'est-ce qui se passe dans son esprit ? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand il est comme ça sur le front ? Et en quoi c'est un humain comme les autres ? C'est ça, moi, qui m'intéresse. Et c'est pour ça que je le montre en communication avec sa femme, puisque aussi, sa femme et son fils, évidemment, c'est toute sa vie. Sa vie, elle n'est pas sur le front, sa vie, elle est sur l'arrière, mais sa vie, elle est bloquée dans un trou sur le front en ce moment, malheureusement.
Le lendemain matin, la voiture peut à nouveau circuler. Mais Sacha et Sania reçoivent l'ordre de rester. Ils doivent tenir la position, coûte que coûte. Les autres abris du secteur ont eux aussi été repérés. Certains doivent évacuer.
Yesterday all night was explosions. Russian hits us by the grads and other kind of bombing and drones too.
Sur les 6 positions occupées par l'unité une semaine plus tôt, seules 2 sont encore actives. De retour à la base, les nouvelles ne sont pas bonnes. L'abri a été attaqué. Sacha et Sania ont dû fuir à pied. L'attente est longue. Ce n'est que tard dans la soirée que les deux hommes arrivent enfin.
Il est souvent avec son casque de réalité virtuelle. Comment on gère justement ce stress post-traumatique ?
Bien sûr, c'est quelque chose qu'on connaît déjà depuis quelques années, le stress induit par la guerre entre guillemets à distance, puisque les États-Unis l'ont beaucoup mené. Il y a une 15aine d'années en Irak, en Afghanistan en particulier, en Afghanistan surtout, depuis des dronistes qui opéraient depuis le territoire américain. Donc c'est des gars qui prenaient le petit déjeuner avec leurs femmes et leurs enfants, ils faisaient 20 minutes de voiture, ils se retrouvaient dans un bunker dans le désert, ils allaient lancer une frappe sur des Afghans à des milliers de kilomètres de chez eux, qu'ils voyaient en direct mourir. Parfois, il y avait des civils, évidemment. Ensuite, ils reprenaient leur voiture, ils rentraient chez eux comme si de rien n'était. Et chez ces soldats-là, les dronistes américains, on a découvert très rapidement qu'il y avait un stress induit par le fait de faire la guerre, entre guillemets, à distance. Donc, pour les pilotes de drones qui sont sur le front en Ukraine, c'est exactement la même chose. De toute façon, quand on subit un stress intense, comme c'est le cas, là, parce qu'on est quand même resté 4 jours coincé dans un trou. Alors, moi, que 4 jours, mais eux, c'est leur quotidien. Cet hiver, ils sont restés 2 mois bloqués dans leur trou sans pouvoir en sortir parce que c'était trop dangereux, les rotations n'étaient pas plus possibles, donc on les ravitaillait par les airs, par drone, on leur envoyait de quoi se nourrir tous les 2-3 jours. Enfin bon, bref, c'est évident que des gars comme Sacha et Sania, le risque de développer du stress post-traumatique, il est extrêmement important. Et il est fort probable qu'ils aient à faire face à du stress post-traumatique dans les mois et les années qui viennent. Et ils en sont tout à fait conscients. Ils pensent, c'est ce qu'ils me disent, c'est notamment ce que Sacha m'explique dès le départ, dès le premier soir, même avant que je lui pose la question. Il dit voilà, je sais que ça peut nous rendre complètement fous, mais moi je me protège grâce aux jeux vidéo, grâce à ce masque. Tout ça, c'est pas réel pour moi, c'est du virtuel. Et donc, même si je tue en vrai des gens tous les jours, je le vis comme un jeu vidéo et ça me protège. C'est sa conviction. Je pense malheureusement qu'il se trompe, que ça ne suffit pas à se protéger. Ils en sont conscients.
Vous avez expliqué que le napalm pouvait être utilisé légalement. Comment ça se fait ?
Parce qu'il y a des conventions internationales qui définissent quelles armes on a le droit d'utiliser et quelles armes on n'a pas le droit d'utiliser. Avant de les voir l'utiliser, je ne savais pas qu'il y avait du napalm qui était utilisé sur le front en Ukraine. Pourtant, je fréquente assidûment depuis 4 ans. J'en avais jamais vu, ni même jamais entendu parler. Je croyais que c'était illégal. Je me suis dit, mince, je ne vais pas pouvoir diffuser ces images parce que ça peut leur créer des problèmes, ça peut être considéré comme un crime de guerre, etc., utilisation d'armes non autorisées, non conventionnelles. Et en fait, pas du tout, c'est tout à fait autorisé, tout à fait légal. La seule limite, c'est sur les civils. Pas le droit d'utiliser du napalm aujourd'hui sur des zones habitées par des civils, mais on a tout à fait le droit de l'utiliser sur des soldats.
Merci. Une dernière question concernant Sacha et Sonia. Où est-ce qu'ils en sont actuellement, notamment à la guerre ?
Alors aujourd'hui, ils sont plus sur le front puisqu'ils ont décidé il y a quelques semaines de déserter. C'est une décision qu'ils ont prise après s'être retrouvés coincés dans un trou cet hiver tous les deux pendant 2 mois, dans des conditions assez effroyables. C'était la fois de trop, on va dire, pour eux. On peut pas dire où ils sont, mais ils sont pas sur le front et ils savent pas s'ils vont retourner sur le front ou s'ils vont assumer leur statut de déserteur et leur vie de déserteur, parce que quand on est déserteur en Ukraine, il faut se cacher, on ne peut pas travailler, puis on risque d'aller en prison si on est attrapé. Donc voilà, ils vont bien. Déjà, ils sont vivants, ce qui est assez miraculeux, puisque l'espérance de vie, alors il n'y a pas d'études là-dessus, mais l'espérance de vie de ces jeunes dronistes qui travaillent sur ce genre de position, dans ce type d'endroit, elle est extrêmement courte. Il y a beaucoup de pertes, évidemment. Ils ont la chance d'être en vie, ils ont fui le front et ils se cachent. Et ils vont bien.
On remercie chaleureusement Gwenlawen Le Guil qui a pu s'entretenir avec nous dans le cadre de son documentaire Wargame, qui est disponible également sur Arte ou sur YouTube.